Chapitre 5. Au loin s'étend l'ombre portée des péchés de jadis. Hercule Poirot se laissa entraîner par la porte à tambour. Puis, arrêtant le mouvement d'une main, il déboucha dans le petit restaurant. Il n'y avait pas grand monde. Ce n'était pas l'heure la plus prisée de la journée, et il ne tarda pas à repérer l'homme qu'il venait rejoindre. La forte, la solide carrure du superintendant Spence se déploya au-dessus de la table, dans le fond de la salle.
« Bravo, vous voilà arrivés. Vous n'avez pas eu trop de mal à trouver. »
« Pas le moins du monde. Vos indications étaient limpides. »«
Permettez-moi de faire tout de suite les présentations. Le superintendant chef Garraway, Monsieur Hercule Poirot. »
Garraway était un homme grand et mince, au fin visage ascétique et dont les cheveux gris, clairsemés sur le sommet du crâne, dégageaient une sorte de petite tonsure qui lui conférait un faux air d'ecclésiastique fort bien réussi.
« Vous me voyez enchanté, » déclara Poirot.
« J'ai beau être depuis pas mal de temps à la retraite, » tint à préciser d'entrée de jeu le superintendant en chef, « je n'ai pas pour autant perdu la mémoire. Oui, il est des affaires passées, des affaires anciennes, que le grand public a depuis belle lurette oubliées, mais que nous autres, hommes du sérail, gardons présentes à l'esprit. »
« Vous avez ce qu'il est convenu d'appeler une mémoire d'éléphant, » faillit commenter Hercule Poirot, qui se retint juste à temps. Cette expression, dans son esprit, était tellement associée à Madame Ariane Oliver qu'il avait désormais du mal à s'abstenir de la prononcer en quantité de circonstances, manifestement fort peu appropriées.
« J'espère que nous ne vous avons pas fait attendre ce rendez-vous trop longtemps, » déclara le superintendant Spence.
Il avança une chaise et tous les trois s'attablèrent. On apporta un menu. Le superintendant Spence, qui à l'évidence fréquentait assidûment l'établissement, donna quelques conseils. Garraway et Poirot firent leur choix. Puis, se carrant contre le dossier de leur chaise pour siroter un verre de sherry, ils se jaugèrent quelques instants les uns les autres du regard avant d'entrer dans le vif du sujet.
« C'est au contraire à moi de m'excuser, » commença Poirot, « d'avoir tant insisté pour vous rencontrer à seule fin de vous soumettre toute une série de questions concernant une affaire depuis longtemps finie et bien finie. »
« Un point d'histoire me titille, » fit Spence de sa bonne grosse voix. « C'est le pourquoi de votre intérêt subi pour cette affaire assez inextricable. Après m'être d'abord dit que ça ne vous ressemblait pas de chercher ainsi à replonger dans le passé, je me suis demandé si cela n'avait pas un rapport avec un événement survenu ces temps derniers. Est-ce que je me trompe ?»
Laissant sa question en suspens, il regarda ses compagnons, tous deux assis en face de lui, et poursuivit.
« L'inspecteur Garraway, pour reprendre le grade qui était le sien à l'époque, a été chargé de l'enquête dans l'affaire Ravenscroft. C'était un de mes vieux amis, aussi n'ai-je eu aucune difficulté à me mettre en contact avec lui pour organiser ce rendez-vous. »
« Et il a eu l'extrême amabilité d'accepter de venir aujourd'hui, » enchaîna Poirot, « pour la simple et unique raison que je témoigne, et il me faut bien l'avouer, d'une curiosité que rien, assurément, ne justifie à l'endroit d'une affaire par ailleurs tombée dans les oubliettes. »
« Comment cela? Moi, je ne formulerai pas les choses ainsi, » se défendit courtoisement Garraway. « Nous nous intéressons tous à moult affaires du passé. Lizzie Borden a-t-elle vraiment assassiné père et mère à coups de hache? Il se trouve des gens pour continuer à croire que non. Qui a assassiné Charles Bravo et pourquoi? Plusieurs hypothèses différentes coexistent, pas vraiment fondées pour la plupart, et des tas de gens continuent à chercher de nouvelles explications. »
Son regard aigu, perspicace, se posa sur Poirot.
« Et quoi qu'en dise mon ami Spence, Monsieur Poirot s'est, si je ne m'abuse, penché sur des affaires l'amenant à enquêter sur des meurtres anciens, et ce, à deux, voire trois reprises. »«
Trois, assurément, » confirma le superintendant Spence, battant ainsi sa coulpe.
« Dont une, je ne crois pas me tromper, à la requête d'une jeune Canadienne. »
« C'est exact, » acquiesça Poirot.
« Une jeune Canadienne impétueuse, passionnée, à la très forte personnalité, qui était venue me prier d'enquêter sur un meurtre pour lequel sa mère avait été condamnée à la perpétuité, mais qui était morte un an seulement après le procès. Cette jeune personne était convaincue de l'innocence de sa mère.
« Vous aussi ?» s'enquit Garraway.
« Moi, non, » répondit Poirot. « Pas la première fois qu'elle m'a raconté l'affaire, en tout cas. Dieu sait pourtant s'il était catégorique. » N'était-il pas normal pour une jeune fille de souhaiter que sa mère ait été innocente, en dépit des apparences, et donc de tout faire pour le prouver, avança Spence.
Cela allait quand même un tout petit peu plus loin que ça, sourit Poirot. Cette jeune fille m'avait expliqué de façon très convaincante quel genre de femme était sa mère.
Une femme incapable de commettre un meurtre?
Non, fit Poirot.
Il serait bien peu sérieux, je suis sûr que vous en conviendrez tous deux avec moi, de décréter telle ou telle personne incapable de commettre un meurtre sous le seul prétexte que l'on vous a expliqué ses natures profondes ou les circonstances qui ont préludé au drame.
Seulement, dans ce cas précis, la mère n'avait jamais protesté de son innocence. Elle semblait parfaitement satisfaite de sa condamnation.
D'emblée, c'était curieux.
Cette femme était-elle défaitiste?
Apparemment non.
Quand j'ai entamé mes recherches, il m'est clairement apparu qu'elle ne l'était pas. Qu'elle était même, pourrait-on dire, tout le contraire d'une défaitiste.
Garroway semblait boire ses paroles. Penché en avant, les coudes sur la table, il malaxait une boulette de mie arrachée à l'un des petits pains qui se trouvaient dans la corbeille.
Et au bout du compte, elle était innocente.
Oui, répondit Poirot.
Elle l'était bel et bien.
Cela vous a étonné?
Non. « Je l'avais compris entre-temps, » expliqua Poirot.
« Il y avait un ou deux détails, un en particulier, qui prouvait qu'elle ne pouvait pas être coupable. Un détail que, sur le moment, personne n'avait perçu. Le connaissant, il suffisait, au lieu d'aller chercher ailleurs, de regarder, pourrait-on dire, ce qu'il y avait au menu. »
À ce moment précis, on déposa devant eux un plat de truites grillées.
« Il y a eu aussi une autre affaire. » Très différente, je vous l'accorde, mais à l'occasion de laquelle vous avez été amené à enquêter en remontant dans le passé, reprit Spence. Il s'agissait d'une gamine qui s'était vantée lors d'une fête d'avoir un jour assisté à un meurtre.
Là encore, il a fallu, comment dire, procéder à rebours au lieu d'aller de l'avant, concéda Poirot.
Mais, en effet, c'est on ne peut plus exact. La gamine avait vraiment assisté au meurtre en question?
Non, fit Poirot. La vantarde était doublée d'une mythomane, qui a d'ailleurs payé son mensonge au prix fort.
Cette truite est exquise, ajouta-t-il d'un ton gourmand. Le poisson ici est toujours excellent, commenta à la bouche pleine le superintendant Spence avant de se servir dans la saucière qu'on lui présentait. Un régal, cette chose, ajouta-t-il.
On se délecta en silence pendant les 3 minutes qui suivirent.
Quand Spence est venu me trouver en me demandant si je gardais le moindre souvenir de l'affaire Ravenscroft, reprit bientôt entre deux bouchées le superintendant en chef Garroway, cela m'a intrigué et ravi en même temps.
Vous n'avez donc pas tout oublié de cette affaire?
Pas de l'affaire Ravenscroft, non.
Elle n'était pas de celles qu'on oublie facilement.
Elle présentait quelques lacunes, reprit Poirot, vous en convenez? Absence de preuves, d'hypothèses de substitution?
En effet, répondit Garroway, il n'y avait rien de tel. Les éléments confirmaient tous les faits constatables. Des décès comme on en avait vu plusieurs exemples auparavant. Non, tout coulait de source.
Et pourtant...
Quoi donc? Releva Poirot.
Pourtant, tout clochait, reprit Garroway.
Ah bon?
Fit Spence, la mine intriguée.
Il vous est arrivé d'avoir le même genre d'impression, n'est-il pas vrai, mon bon ami? S'enquit Poirot en se tournant vers ce dernier.
Oui, au cours de l'affaire concernant l'assassinat de Madame McGinty.
Quand ce garçon impossible a été arrêté, cela ne nous a pas satisfait. Il avait toutes les raisons du monde d'avoir commis le crime. Il avait l'air de l'avoir commis, et tout le monde était persuadé qu'il l'avait commis, sauf vous, qui saviez que ce n'était pas lui. Vous en étiez tellement sûr que vous êtes venu me trouver pour me demander de voir si je ne pourrais pas découvrir quoi que ce soit qui vous aurait échappé.
« Ce que vous avez d'ailleurs fait, » ajouta Spence.
Poirot soupira.
« Oui, heureusement.
Mais que cet individu pouvait donc être pénible. Une véritable tête de mule. Si jamais jeune homme mérita la pendaison, non qu'il eût commis un crime, mais il refusait d'aider quiconque à prouver qu'il n'en avait pas commis. »
Venons-en à présent à l'affaire Ravenscroft. Vous dites, superintendant Garroway, que quelque chose clochait?
Oui, j'en étais totalement convaincu, si vous comprenez ce que je veux dire.
Je comprends très bien ça, assura Poirot.
De même que Spence, ce genre de phénomène se produit parfois. Les preuves sont là, mobiles, occasions, indices, mise en scène, tout y est. Le canevas complet, pourrait-on dire. Et cependant, les professionnels, eux, savent. Ils savent que tout cloche, de la même façon qu'un critique d'art sait quand un élément cloche dans un tableau, sait quand il s'agit d'un faux et non de l'œuvre originale.
Mais dans le cas qui nous occupe, j'étais vraiment coincé aux entournures, expliqua le superintendant Garraway. J'avais exploré l'affaire dans tous les sens et par tous les bouts. Je m'étais entretenu avec tout le monde, sans résultat. Cela ressemblait à un pacte de suicide, et cela en présentait toutes les apparences. D'un autre côté, bien sûr, ça aurait pu être une histoire de mari qui aurait tué sa femme avant de se faire justice, ou de femme qui aurait abattu son mari avant de se supprimer. Ces divers cas de figure se présentent parfois. Quand on les rencontre, on sait de quoi ils retournent. Et dans la majorité des cas, on finit par se faire une idée bien précise du « pourquoi », de la raison pour laquelle c'est arrivé.
Or, ce « pourquoi », en l'occurrence, n'a jamais pu être élucidé, c'est bien ça, releva Poirot.
Oui, c'est ça. Voyez-vous, dès l'instant où l'on entame une enquête, où l'on commence à se renseigner sur les choses et les gens, sur les tenants et les aboutissants, on obtient en général un tableau très précis de ce à quoi leur vie ressemblait. Dans le cas qui nous intéresse, il s'agissait d'un couple vieillissant dont les deux membres vivaient en bonne intelligence, le mari possédant de bons états de service, la femme aimante et agréable. C'est un aspect qu'on ne tarde pas à découvrir. Ils coulaient ensemble des jours heureux. Ils se promenaient l'après-midi, ils jouaient ensemble le soir au piquet, aux patience. Leurs enfants, un garçon scolarisé en Angleterre, une fille au pensionnat en Suisse, ne leur causait aucun souci particulier. Pour autant qu'on puisse en juger, rien ne clochait dans leur vie. D'après les dossiers médicaux que l'on a pu obtenir, rien ne clochait vraiment non plus du point de vue de leur état général. Lui avait souffert d'hypertension à une époque, mais sa santé était stable depuis qu'il prenait les médicaments idoines. Elle était légèrement sourde et avait fait un petit accident cardiaque, mais sans gravité, rien de bien inquiétant. Bien entendu, il se pouvait, comme cela arrive parfois, que le mari ou la femme ait eu des craintes dans ce domaine. Un tas de gens en parfaite santé sont convaincus d'être atteints d'un cancer et de n'avoir pas plus d'un an à vivre. Cela conduit parfois certains au suicide. Mais les Ravenscroft ne semblaient pas appartenir à cette catégorie. Ils semblaient avoir toujours été équilibrés et sereins.
Au bout du compte, qu'en avez-vous pensé ? Demanda Poirot.
L'ennui, c'est que je n'arrivais pas à penser. Rétrospectivement, je me suis dit qu'il s'agissait d'un suicide. Ça ne pouvait être que ça. Pour une raison qui nous échappait, ils avaient décidé que la vie leur était devenue intolérable. Ni à cause d'ennuis pécuniaires, ni à cause de problèmes de santé, et pas davantage parce qu'ils étaient malheureux. Je ne voyais pas ce qui avait pu se produire d'autre. Ils étaient partis se promener, tous les deux en emportant un revolver. On avait retrouvé le revolver entre les deux corps, et dessus, des empreintes superposées appartenant aux deux. Ils avaient tous les deux manipulé le revolver, en fait, mais aucun indice ne permettait d'établir qui avait tiré en dernier. On a eu tendance à penser que c'était le mari qui avait sans doute tiré sur sa femme avant de se supprimer, uniquement parce que ça semblait plus vraisemblable. Mais pourquoi? Bien des années ont passé. Quand de temps à autre un meurtre survient qui me rappelle cette affaire, quand les journaux parlent de corps, des corps d'un mari et de sa femme retrouvés quelque part après s'être apparemment supprimés, je repense au passé et je me demande à nouveau ce qui a pu arriver dans le cas des Ravenscroft. 13 ou 14 ans se sont écoulés, mais je me souviens toujours de l'affaire Ravenscroft et je me pose invariablement la question. Je crois, ma foi, qu'elle tient en un mot. Pourquoi ?
Pourquoi ?
Pourquoi ? Cette femme détestait-elle vraiment son mari et souhaitait-elle se débarrasser de lui ? Se détestaient-ils mutuellement depuis si longtemps qu'ils n'avaient, un beau jour, pu trouver en eux la force de se supporter davantage ?
Garraway arracha un nouveau morceau de mie de pain qu'il se mit à pétrir.
Auriez-vous par hasard une idée, monsieur Poirot ? Quelqu'un serait-il venu vous dévoiler un pan de l'histoire qui aurait éveillé votre curiosité? Savez-vous quoi que ce soit qui puisse apporter un début de réponse à ce
Pourquoi ?
Non. Il n'empêche, reprit Poirot, que vous avez bien dû échafauder des hypothèses, et vous forger une intime conviction.
Voyons, cette conviction, quelle était-elle ?
Vous avez mille fois raison, bien sûr. On échafaude des hypothèses. On s'attend à ce que toutes, ou au moins l'une d'elles, mène quelque part, ce qui, hélas, n'est en général pas le cas. Quant à ma conviction, je crois qu'elle revenait à conclure que, faute de renseignements suffisants, on ne pouvait en fin de compte rechercher sérieusement la cause du drame. Car enfin, que savais-je au juste ? Que le général Ravenscroft avoisinait les 60 ans et que sa femme en avait 35 ? Que tout ce que je connaissais d'eux, à proprement parler, c'était les 5 ou 6 dernières années de leur vie ? Que le général percevait une retraite ? Que sa femme et lui étaient rentrés en Angleterre après avoir vécu à l'étranger ? Si bien que tous les témoignages qui me parvenaient, toutes les informations, concernaient une brève période au cours de laquelle le couple avait d'abord séjourné à Bournemouth, puis déménagé pour vivre dans la maison où était survenu le drame. Qu'ils y avaient coulé des jours heureux, tranquilles, que leurs enfants les y rejoignaient pendant les vacances scolaires, que ça avait été une période paisible, je dirais, à la fin de ce qui avait également été, supposait-on, une vie paisible. Je connaissais donc leur vie après leur retour en Angleterre, ainsi que leur famille. Il n'existait pas de mobile d'ordre pécuniaire, pas de rancune, pas de liaison extra-conjugale, pas d'amour intempestive. Non. Pourtant, il y avait eu une vie avant celle-là. Quand savais-je ? Je savais qu'elle s'était déroulée en majeure partie à l'étranger, entrecoupée de brefs séjours au pays, avec de bons états de service pour le mari et d'agréables souvenirs laissés par la femme à ses amis. Pas de drame notable, de querelle, rien dont on ait eu vent. Cela dit, j'aurais pu ne pas en être informé, on ne sait jamais. Restait une période de disons 20 à 30 ans, allant de l'enfance à l'époque où ils s'étaient mariés et où ils étaient partis vivre en Malaisie et ailleurs. Peut-être l'origine du drame plongeait-elle là ses racines ? Je me souviens d'un proverbe que ma grand-mère avait coutume de répéter « Au loin s'étend l'ombre portée des péchés de jadis ». Une ombre gigantesque était-elle à l'origine de ces deux morts ? Une ombre du passé ? Ce genre de renseignement n'est pas facile à obtenir. On peut en apprendre beaucoup sur le passé professionnel de quelqu'un, sur ses amis ou ses connaissances de l'époque, mais on ne glanera aucun détail intime. Or, c'était précisément là qu'il m'aurait fallu creuser, pour peu que les moyens m'en aient été donnés. Un événement quelconque avait dû se produire autrefois, dans un autre pays peut-être. Un événement que tout le monde avait cru oublié, balayé, mais qui sans doute avait refait surface. Une douleur enfouie, une rancœur ancienne, ignorée de leur présent entourage. Si seulement on avait su où chercher. Vous ne parlez pas de détails qu'auraient pu se remémorer leurs amis de Bournemouth, ou leur voisin, au moment du drame, intervint Poirot. Mais bien plutôt de faits dont aucun des récents familiers du couple Ravenscroft n'aurait entendu parler. Apparemment, la plupart de leurs amitiés d'Angleterre dataient en effet d'après la retraite du général, mais je suppose que de temps à autre, de vieux amis venaient rendre visite au Ravenscroft. Mais les secrets du passé sont rarement évoqués. Et puis les gens oublient.
En effet, répéta pensivement Poirot, les gens oublient.
Ce n'est pas comme les éléphants, reprit le superintendant Garraway en esquissant un léger sourire. On dit toujours que les éléphants se souviennent de tout, eux.
C'est curieux que vous parliez de ça, sourit à son tour Poirot.
Que je parle de l'ombre portée des péchés de jadis ? Non, pas tellement ça. C'est votre allusion aux éléphants qui m'a intéressé.
Le superintendant Garraway regarda Poirot d'un air passablement intrigué. Selon lui, le détective en avait trop dit ou pas assez.
Spence adressa lui aussi un bref regard à son vieil ami.
Vous songez à un événement qui se serait produit en Asie du Sud-Est, lança-t-il. Car enfin, c'est dans ces régions qu'on trouve les éléphants, n'est-ce pas? Ou en Afrique? Quoi qu'il en soit, qui vous a parlé d'éléphants? Demanda-t-il.
Il s'est trouvé qu'une de mes excellentes amies les a mentionnés, répondit Poirot. « Quelqu'un que vous connaissez, superintendant Spence, » ajouta-t-il à l'intention de ce dernier. « Madame Oliver. »«
Oh, Madame Ariane Oliver, tiens donc !»
Tiens donc, quoi ? Releva Poirot.
Serait-elle au courant de quelque chose ?
Je doute qu'elle le soit pour le moment, répondit Poirot. Mais il se pourrait qu'elle le soit sous peu. C'est un talent qu'elle a, ajouta-t-il, songeur. Elle possède l'art d'embrouiller les choses et l'art aussi parfois de les débrouiller, si vous voyez ce que je veux dire.
Et comment, renchérit Spence. Oui, je vois. N'aurait-elle pas déjà une idée en tête ?
S'enquit-il. Vous parlez de Madame Ariane Oliver, l'écrivain ? Demanda Garraway avec intérêt.
Celle-là même, confirma Spence.
D'après vous, elle s'y connaît vraiment en criminalité ?
Je sais qu'elle écrit des romans policiers, mais je n'ai jamais su d'où elle tirait ses idées ou ses éléments d'intrigue.
Les idées, expliqua Poirot, sortent de son cerveau éminemment fertile. Les éléments, ma foi, c'est plus compliqué. Il s'interrompit un instant.
À quoi pensez-vous, Poirot ? À quelque chose de précis ?
Oui, répondit Poirot. J'ai une fois réduit à néant une des intrigues de Madame Oliver, ou en tout cas, c'est ce qu'elle affirme. Elle venait tout juste d'avoir une idée censément mirobolante concernant un détail, quelque chose qui avait, semble-t-il, à voir avec un cardigan de laine à manches longues. Sur ce, je lui ai téléphoné pour lui demander je ne sais quoi, et mon appel a définitivement chassé la trouvaille de sa mémoire. Il lui arrive de me le reprocher encore de temps à autre.
« Seigneur !» manqua s'étrangler Spence. « Ça évoquerait presque le fameux persil qui s'enfonçait dans le beurre maître d'hôtel lors d'une chaude journée d'été. « Vous savez, Sherlock Holmes, et le chien qui ne s'était pas manifesté pendant la nuit. »«
Un chien ?
Est-ce qu'ils en avaient un ?» interrogea soudain Poirot. « Je vous demande pardon. »
J'ai dit, « Est-ce qu'ils avaient un chien ? Le général et Lady Ravenscroft. » « Et est-ce qu'ils l'avaient emmené avec eux en promenade le jour où ils sont morts tous les deux ?»«
Ils en possédaient un ?»«
Oui, » répondit Garraway.
« J'imagine. J'imagine qu'ils l'emmenaient la plupart du temps. » « S'il s'agissait d'un des romans de Madame Oliver, » enchaîna Spence, « on aurait forcément retrouvé le chien en train de hurler à la mort entre les deux dépouilles. Mais ça n'a apparemment pas été le cas. »
Garraway secoua la tête. « Je me demande où il est, à présent, ce chien, » réfléchit tout haut Poirot.
« Enterré au fond d'un jardin quelconque, j'imagine, » répondit Garraway. « Ça remonte à 14 ans. »
« On ne peut donc pas aller interroger la pauvre bête, n'est-ce pas ?» poursuivit Poirot. « Dommage, » ajouta-t-il pensif. « C'est stupéfiant, figurez-vous, ce que les chiens peuvent savoir. Qui y avait-il au juste dans la maison ?»
Le jour où le crime a été perpétré, j'entends.
« Je vous en ai apporté la liste, » annonça le superintendant Garraway, au cas où vous souhaiteriez la consulter. « Madame Whittaker, la vieille cuisinière gouvernante. C'était son jour de sortie. On n'a donc guère obtenu de renseignements importants de sa part. Une femme séjournait chez les Ravenscroft, l'ancienne préceptrice des enfants, me semble-t-il.
Madame Whittaker était presque sourde et partiellement aveugle. Elle n'a rien pu nous dire d'important, si ce n'est que, peu auparavant, Lady Ravenscroft avait été internée dans un hôpital ou une maison de repos, pour les nerfs, apparemment. Il y avait aussi un jardinier.
« Il aurait néanmoins pu venir quelqu'un de l'extérieur, » suggéra Spence.
« Un inconnu ressurgi du passé.
C'est votre idée à vous, Garraway ?
C'est moins une idée qu'une simple hypothèse. »
Poirot ne soufflait mot. Il se remémorait une autre occasion au cours de laquelle il avait été amené à enquêter en remontant dans le passé, de 16 longues années en l'occurrence, et où il avait étudié le cas de 5 personnages qui lui avaient rappelé la comptine des 5 petits cochons que l'on chante aux enfants. Ça avait été intéressant et payant au bout du compte, car il avait une fois encore découvert la vérité.